Chute libre, entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Soit Vincent S. Sadek pour son ouvrage Le village Matouret, qui est un livre de poésie en prose ou de poésie tout court, je ne sais pas, on va en parler, publié aux éditions Lanskin. Vincent, bonjour.
Bonjour.
Alors, deux mots sur vous. Vous êtes, vous écrivez, vous faites de la photographie, vous gravez et vous peignez, vous êtes artiste aussi. Et Le village Matouret est votre premier livre publié. Je vais, pour qu'on commence à se connaître, vous demander de lire un extrait du texte, tout de suite.
Oui, volontiers. Je vais vous lire le début. Et peut-être qu'on parlera justement de ce début, puisqu'en fait, ça témoigne d'une démarche du narrateur. Donc voici le début du livre. « Voilà ce que je te donne à lire. J'ai commandé beaucoup de choses pour toi. Tu as un village entre les mains. Le matin... Je vais vers le village. Il dit « Fais-moi vivre ». Champs d'arbres fruitiers. Terrain viabilisé. Avec eau et électricité. Maison familiale. Pour l'intérieur des maisons, j'ai fait plusieurs plans. Abri de fenêtres. Rampe d'escalier. Maison entièrement équipée. Rideaux. Fauteuils. Nombreuses chaises. Apparence de chaises. Habitants. Sourds. Muets. Valide, autres gens, nombreux animaux, clapiers. J'ai fait pour tout et pour tout le monde. Corps, nez qui saigne, articulations, dents dures comme le silex, béquilles pour malades, nombreux médicaments pour malades, esprit, synapses, ombre, grincement, inquiétude, choses essentielles, choses utiles, choses accessoires, détails, décoration, corbeille de fruits, cadeaux à détacher, surprise, nombreux pétales, nombreux petits dessins. Comme le ciel, je m'étends sur le village. Village sous le ciel, tout le village sous le ciel, ciel de toutes les heures, sommeil, nuit, nombreuses nuits, cheveux emmêlés dans le lit, jambes dépassant du lit, pieds chauds. Tout est connu. Le village s'ouvrira, jour.
Alors, Vincent Sadek, c'est un village. Il n'a pas de nom, pas d'époque. Ça pourrait être n'importe quel village, de n'importe où, de n'importe quel endroit, de n'importe quelle époque. Et vous écrivez, d'ailleurs, on a un village entre les mains. On le regarde comme on regarde une boule. À neige, dites-vous, et pas de neige. Le village se construit, se détruit. Des rencontres se font, se défont. C'est assez mystérieux tout ça.
Ce qui est important, effectivement, c'est dans ce début, on a un narrateur, et ce narrateur, il nous met un village dans les mains. Mmh. Il offre un village, il fait un cadeau. Et ce cadeau, il le fait lui-même. Il ne prend pas un village qui existe déjà, puisque c'est lui qui fait ce cadeau, il crée ce cadeau, il crée ce village. Et très vite, quasiment tout de suite, dès qu'il crée ce village, il est vivant. Il est très vivant et vivant, il va appeler de la vie supplémentaire et ce narrateur, d'une certaine manière, il va faire vivre son village, ce village qu'on a donc entre nos mains.
Lave-moi, dit le village. Quand je suis prêt, je fais rentrer le village dans la chambre. Je prépare le savon, l'eau froide et l'eau chaude. Le village dépose les vêtements sur la chaise. Le village plie le pantalon soigneusement. Le village met les chaussettes au linge sale. Le village aime être nu devant la glace. Le village passe de l'eau sur le corps. Le village savonne les joues, le cou, le menton, les fesses. Le village réclame du shampoing, le village s'éclabousse, le village prend la serviette, sur le radiateur. Le village passe le bout de la serviette dans les oreilles. Le village passe de nouveaux habits. Le village, c'est vous.
Le village, c'est un être vivant.
Voilà.
Et comme tout être vivant, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Mmh. Et il fait ce que fait un être vivant. Il se lave, il s'habille, il vit tout simplement. Et donc, en fait, il y a cette vie du village qui est là et qui va accompagner comme ça le texte tout du long.
Alors, c'est étrange parce que c'est une des premières questions que je voulais vous poser. Il y a des points partout dans votre livre. En général, la ponctuation, c'est point, virgule, et puis passage à la ligne. C'est une sorte de ponctuation, surtout en poésie. Et là, il y a des points, mais ils sont tout à la fois mystérieux, parce que moi, quelquefois, quand je lis, je mets un point là où il n'y en a pas. Et puis, je ne mets pas là où il y en a un. Ça marche comment, les points, pour vous ?
C'est difficile, les points, pour moi.
Oui.
Dans ce texte-ci, il y a point et point. Au fond, ce ne sont pas des points au sens où on l'entend, au sens de la ponctuation classique, c'est-à-dire le point, un moment d'arrêt, on respire et peut-être, en tout cas on l'espère tous, on repart. Ces points-là, ce sont plutôt des choses que l'on pourrait assimiler à des grains d'un collier, des grains d'un chapelet, c'est-à-dire ce sont des choses qui relient des mots les uns avec les autres. Et comme je n'avais pas, pour ce livre-là, de ponctuation de perles, voilà, on a des ponctuations qui sont aujourd'hui extrêmement normées, j'ai utilisé le point, que tout le monde connaît, mais d'une certaine manière pour autre chose, pour relier ces mots les uns avec les autres et faire en sorte que ces colliers, les uns après les autres, égrènent cette vie du village.
Oui, vous auriez pu inventer, je ne sais pas quoi, un esperluette ou un je ne sais pas quoi, de,
non, on
un
aurait
petit
pu,
dessin,
hein, on
puisque
aurait
vous
pu.
Êtes... peintre, enfin, dessinateur.
On aurait pu inventer un autre signe, mais ce signe-là est finalement un très beau signe, puisque quand je parle de la perle,
oui,
ça ressemble aussi à un point. D'une certaine manière, on aurait pu prendre un tout petit point, un plus petit point, justement pour montrer que ça n'était pas un point, mais peut-être que vous m'auriez posé là la question de savoir
sûrement.
Ce que c'était que ce petit point.
Peut-être, oui.
Donc on a toujours ces questions de ponctuation et de savoir à quoi la ponctuation fait référence. Disons que là, effectivement, ça n'est pas un point qui appelle un nouveau départ en majuscule. D'ailleurs, a priori, à part le nom de la personne, hein, dont on va parler un peu plus tard sans doute, il n'y a pas de majuscule.
Monsieur Matouré. On va en parler, bien sûr. Murs, échelles, haies, escabeaux, nombreuses galeries creusées par les taupes sous la terre, nids de fourmis sous la terre, terriers cachés sous la terre. Terre instable sous le pied des échelles, terre instable sous le pied des escabeaux, chute, côte cassée, peau, dans le puits, entraînée, par le poids des seaux qu'elle remontait, elle bascule et dégringole dans le puits. Sous sa voiture, celui-là glisse sous la roue de sa voiture qui lui passe sur le corps, tombant du grenier, allant chercher du bois, un autre tombe sur la tête et se blesse, tombe de l'échelle, il perd l'équilibre, il succombe. Alors là, il y a le village, mais il y a aussi la vie dans le village. Et ici, il s'en passe des choses, finalement, dans ce village.
Ce qui est bouleversant, c'est qu'en fait, on pourrait penser que quand ce narrateur décide de faire vivre ce village, il fait un choix qui est un choix petit. Petite collectivité humaine, un village, on imagine quelque chose de pas très grand. Et quand on commence à s'y mettre, à écrire avec ce village, on se rend compte que c'est diablement difficile, tout simplement parce qu'il y a des tonnes de choses. Il y a des choses qui s'y passent, il y a des choses qui s'y sont passées, il y a des êtres qui ont vécu, il y a des anecdotes qui arrivent, il y a des accidents, il y a des choses qu'on se raconte de génération en génération, et ce village est tout ça. Et du coup, il y a une richesse qui est quasiment inépuisable dans le village, et si on veut le faire vivre réellement, il faut tout dire.
Ça me fait penser à notre délire statistique d'aujourd'hui, de temps où, quand il y a des guerres, et il y en a hélas, ou des génocides, et il y en a hélas, On vous dit, oh, mais il n'y a eu que 1000 morts là, et puis, alors qu'en face, il y en a 30 000, etc. Or, on sait bien qu'un seul mort, c'est tous les morts qui meurent, en quelque sorte. Et c'est un peu enfin, ce sentiment que j'ai quand je vous écoute. Dans un petit village, il y a la totalité du monde, ou de la vie, ou des humains.
Il y a la totalité du monde, il y a la totalité de la vie. Et oui, il y a des petites choses qui paraissent très signifiantes. Et il y a aussi, dans ce village, les marques, les stigmates des guerres qui l'ont traversé, puisque personne ne peut connaître un village qui n'ait jamais connu la guerre. Et en fait, on voit dans ce village ce qui l'a marqué de l'ordre des catastrophes.
Et comment vous avez... comment vous êtes venu à cette idée de vous inscrire dans ce village, enfin de parler du village, ou que le village parle? Comment ça vous est venu, ça? Vous aimez les villages?
Je n'aime pas particulièrement les villages. Mm-hmm. Je n'ai pas d'amour pour un village en particulier. D'ailleurs, ce village, il est créé. Il m'a semblé que, justement, dans un petit espace comme ça, il y avait, comme vous l'avez dit, la boule à neige du monde, et que il y avait une intensité de vie qui était amplement suffisante. Il y a des gens qui écrivent sur le monde en grand, sur l'histoire en grand. Ce village, pour moi, c'est déjà une tâche écrasante que j'ai accomplie. J'ai bien fait, je pense, de m'arrêter à cette démarche du village.
Au septième jour, il se reposa.
Ce qui est intéressant, effectivement, voilà, c'est que dans ce village-là, jamais on ne se repose. Et le narrateur jamais ne peut se reposer, puisqu'il y a toujours quelque chose à réparer.
Qui se passe. Ouais. C'est le truc interminable.
Voilà. Tout à fait.
Des envies dans les pentes là, c'est vieux comme le monde. Des ennuis là, il en tombe. Attention, je peux faire ça. Attention, dans les pentes là. Mais promesse à tenir avant les forêts, avant de dormir avant les forêts, sur la peau gelée du lac je meurs d'aller, sur la peau gelée du lac je meurs d'aller. Un jour, qui sait, je reviendrai là, on me verra tous là, on me verra tous t'implorer. Nuit, j'irai derrière, j'irai comme un i, un hibou. La peur à d'autres, la peur. J'ai des promesses à tenir avant les forêts, avant de dormir avant les forêts.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Alors sur Chute Libre, je reçois Vincent et Sadek pour Le Village Matouret, publié aux éditions Lanskin. C'est une histoire de village habité.
Soir, soir encore, encore soir, rongeur, longue patte, tête poilue, corps rond, araignée, toutes araignées, nid d'araignées, mère des araignées, père des araignées, enfant des araignées, royaume des araignées, prince des araignées, sujet des araignées, loi des araignées, ciel, autre ciel gris, ciel lourd, ciel bas, ciel d'orage. Fais-moi peur, dit le village. Vent, coup de vent, nuages par-dessus tête, nombreux nuages, intempéries, beaucoup d'eau, toit qui s'envole, mort, nombreux morts, arbres s'abattant sur les morts, morts emportés loin du village, coulés debout, ciel de traîne, dégâts, nombreux dégâts, dégâts innombrables. Répare-moi, dit le village. J'enlève les traces des tempêtes, odeurs, petites branches, pommes de pin, souches, pierres, briques, parpaings, ferrailles, panneaux toutes directions. Je démonte le village, je débarrasse le village, benne, brouette. Je cherche le village, je ranime le village, je plante n'importe quel arbre avec ses racines, arbre solide, arbre qui résiste au vent. Échafaudage, réparation, rétablissement du village.
Dites-moi, j'espère qu'il y a un assureur dans le village, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de la vie.
On se rend compte que dans la vie, il y a beaucoup de problèmes et que ce village les traverse.
Des petits et des gros, d'ailleurs.
Des petits et des grands. Il y a des aspirations à ce qu'il se passe quelque chose dans le village. Et quand il se passe quelque chose, malheureusement, ça peut être aussi du malheur. Et le narrateur, il est là, justement, à côté du village, mais plus qu'à côté. C'est à lui de réparer, effectivement, c'est à lui de faire en sorte que ce village se rétablisse pour que la vie se perpétue.
Oui, c'est lui le médecin, en quelque sorte. Le médecin.
C'est le médecin, c'est le bâtisseur, ouais. C'est peut-être aussi l'homme catastrophe.
Oui, le chaman aussi, un peu.
C'est lui qui est au cœur du village.
Et vous écrivez quelque part, je ne sais plus où, mais une très belle phrase, « Beaucoup d'enfants du village naissent en criant ». Ça, c'est on comprend pourquoi il crie.
On comprend pourquoi ils crient et on aime qu'ils naissent.
Et oui, ils font face à ça. Il y a eu un article de Claro dans Diacritique, je crois, où il dit que Vincent et Sadek traitent le village avec une délicate obstination. Et je trouve que c'est assez juste comme remarque, c'est-à-dire que à la fois c'est, on ne nous écrabouille pas, même s'il y a des horreurs qui sont montrées, mais c'est pas écrabouillant. C'est pas harassant, c'est délicat, mais c'est obstiné.
C'est obstiné parce qu'il va avoir ce cœur avec le village. Et on voit bien que c'est pas toujours si facile que ça d'être un village. Et donc, il faut que pour cette vie se perpétue, on soit très obstiné, toujours à côté, et faire en sorte que cette vie se poursuive, j'allais dire, quoi qu'il arrive.
Alors on va assister à l'arrivée de ma tourée, centre du village, intérieur, clos, sifflement d'hirondelles dans les jardins, nichée d'hirondelles, coin, recoin, fiente, salissure, fenêtre, se jeter par la fenêtre, peu de fenêtres, trop peu de fenêtres, disparition des fenêtres. Quand ma tourée vient à passer, il dit, ce n'est pas demain, que je vais pouvoir finir. Élimination des nids d'hirondelles, petit plomb, cartouche de chasse, fusil, jeu. Alors ma tourée est là.
Ma tourée est là et c'est un peu une surprise. Puisque dans cette énumération de choses, dans cet inventaire du village, dans un premier temps en tout cas, il n'y a pas de nom de personne. Il y a de la vie, mais il n'y a pas de nom de personne. Et tout d'un coup, ma tourée passe. C'est peut-être une surprise, c'est peut-être comme un verre dans un fruit, on prend le fruit et on trouve le verre. Mais toujours est-il que maintenant que ma tourée est là, il va falloir faire avec, il va falloir que le narrateur fasse avec.
Mais ce n'est pas le narrateur, ma tourée, c'est un autre.
C'est un autre, et oui. Il va falloir surtout que le village fasse avec, puisqu'on voit bien que ma tourée, là où il est dans le village.
Et vous l'avez trouvé comment, ma tourée, cher narrateur?
Je l'ai trouvé comme on trouve les choses, c'est-à-dire par hasard. Vous voyez qu'on était dans une sorte de bazar, de choses, dans un recoin, dans des recoins. Et tout d'un coup, ma tourée est là. C'est un nom qui tombe, d'une certaine manière. C'est quelque chose qu'on glane. On pense que c'est quelque chose et en fait, c'est quelqu'un.
Vous dites à un moment, c'est un funeste village. Pourquoi ?
parce qu'il y a parfois des mauvais sorts que se jette lui-même le village, comme s'il se maudissait lui aussi. Et du coup, il se complique la tâche. Et en ayant Matouré en son sein, d'une certaine manière, là aussi, il se complique la tâche.
« Habille-moi, dit le village. Je retire les vêtements de la nuit, je dépose les vêtements encore chauds sur le lit. Le village met les bras en l'air pour passer le maillot de corps. Le village lève une jambe, puis l'autre, pour accueillir le sous-vêtement. Le village s'assoit pour accueillir les chaussettes, pieds nets, pantalons gris. Le village boutonne la chemise. Le village est prêt à sortir. » À la fois, c'est drôle. C'est un peu triste. C'est distancié. Et puis, c'est drôle. Et puis, on se dit, mais ce Vincent et sa dec, il est tombé sur la tête. Et au début, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de village dont on nous parle à tort et à travers. Et peu à peu, on entre dedans, ou plutôt on se promène dedans, où on sent que c'est aussi notre affaire. Voilà, le village.
C'est notre affaire, parce que vous voyez que dans ce passage, on s'en occupe, on l'habille. C'est un moment où le village est quand même extrêmement docile et bien élevé. Il ne sort pas comme ça, il sort quand il est habillé. Ce qui est évidemment une précaution à prendre pour sortir de chez soi. Donc on a un village qui se prête d'une certaine manière au jeu d'être un village et de vouloir apparaître aux autres.
Alors Matouré, c'est un exclu aussi, tout à la fois, c'est une espèce de paria, enfin je ne sais pas.
Alors Matouré, ça serait difficile de le caractériser. Il existe dans ce village comme le village, c'est-à-dire par des petites choses, et essentiellement par des choses qu'il dit ou qu'il fait. Ce ne sont pas des grands gestes scandaleux, ce ne sont pas des grands gestes généreux, mais il dénote peut-être dans le village une certaine originalité. C'est pour ça qu'il a un nom, et c'est peut-être pour ça aussi que parfois on le regarde un peu de travers. C'est un peu ce que vous disiez avec la marge. On se demande finalement ce qu'il fait là, qui il est, même si là aussi on s'en occupe.
Vous nous en lisez quelques extraits encore.
Lampadaires et forêts, matin calme, date oubliée, les oiseaux sont aimés. Lieu à part, alentour, pattes de corbeaux, sautillement des corbeaux, où vont les corbeaux? Sautillement pas clair, itinéraire pas clair, raison pas claire des corbeaux. Un jour, on découvrit Matouré. Il a fallu qu'on s'en occupe. Ses mains ne savaient pas obéir. Sentiment pénible qu'inspire Matouré. La tête de Matouré a une curieuse façon de rire. Tremblements qui ne préviennent pas. Lèvres closes faisant disparaître les joues et la bouche. Curieux bruit de gorge. Ellipse. Coupe sombre dans le village, pelouse interdite, jardin bien entretenu, jambe à son cou, déchirure.
Et à la fois Matouré, c'est aussi un paria, mais c'est aussi un inconnu qui surgit, à la fois ravi ou naïf vis-à-vis du monde, pas vis-à-vis du village, puisque le village c'est le monde, ou plutôt le monde c'est le village, je ne sais pas. Et il pose un regard sur le village, mais il n'est pas seul, puisqu'il y a aussi ce fameux narrateur. Donc il y a un croisement des deux regards, sauf que le regard de Matouré, il est embué du regard du narrateur, toutefois.
Ce Matouré, il est un peu encombrant pour le narrateur, parce qu'on sent qu'il a une vitalité très forte. Il fait parfois des bêtises dans le village. Et on voit bien que le narrateur, dès lors qu'il est apparu, ce Matouré, il peut pas le contrôler absolument. Donc c'est un embarras comme il y en a beaucoup dans le village, mais c'est un embarras qui est particulier. Et ce narrateur le regarde, ce Matouré, l'observe, et là aussi il s'en occupe, hein, puisqu'il va devoir lui construire une maison. Il fait les plans de la maison de Matouré pour que Matouré se sente bien aussi dans le village.
Nombreux cailloux sucés par Matouré pour en connaître le goût. mouillé, sale, terreux, écœurant. Il fait des expériences, Matouré. Sucer cailloux après rosée du matin, sucer cailloux après sécheresse de l'après-midi, après coucher du soleil, sucer cailloux après ciel noir, sucer cailloux après la pluie, sucer cailloux sans avoir assez mangé, sucer cailloux après avoir trop mangé, sucer cailloux après avoir perdu patience, après avoir perdu espoir, après nombreuses contrariétés. C'est incroyable parce que à la fois c'est un tout petit bout de texte, c'est déprimant et c'est remontant tout à la fois, cette histoire de cailloux là.
C'est une émotion que certains d'entre nous avons eue. Alors, on ne le fait pas nécessairement tous les jours. On le fait souvent quand on est enfant, hein, de sucer comme ça des cailloux. Et quand on suce un caillou, ce qui peut paraître déraisonnable, là aussi, on éprouve le monde et il y a des sensations incroyables à l'idée de sucer un caillou. Et donc, c'est vraiment l'expérience que fait Matouré que de vivre ce monde par des choses à la fois improbable et simple, comme ce geste de sucer un caillou.
Allegre FM 93.1. 93.1.
Alors je reçois Vincent et Sadek pour le village Matoret. Merci beaucoup Vincent d'être venu nous parler de cet étrange ouvrage sur un village qui parle. Et je trouve que c'est très visuel comme ouvrage. Et on va entendre un extrait à nouveau, puis après on parlera aussi de votre activité de graveur et de peintre.
Volontiers. J'ai saisi le village aux quatre coins. J'ai fait plusieurs tentatives. Je pense pour tout et pour tout le monde. Nombreux volets. Plus on approche, moins on voit. Serrures fermées de l'intérieur. Le soir, vérifier plusieurs fois. Mettre une chaise derrière la porte. Il est presque impossible d'obtenir une fermeture à peu près convenable. Pendant la nuit, cauchemar. Partout, ils réussissent à entrer. Comment font-ils? Dans la panique, on n'a aucune idée. On ne sera jamais tranquille. C'est une alerte sérieuse. Il se pourrait que le village soit inquiet. Store, parasol, mardi matin. Nombreux rangements, nombreux dérangements. Pourtant, on n'avait presque rien bougé. Fatigue des murs. Glace au-dessus du lavabo. Nombreux lavabos, nombreuses glaces. Visages se regardant dans la glace au-dessus du lavabo. Certains se demandent s'ils ont l'obligation de vivre. Question fâcheuse.
Plus on s'approche, moins l'on voit. Mais c'est peut-être pour ça qu'on a besoin de peintres, de graveurs et de plasticiens. Mais aussi, plus on s'approche, plus il y a de choses à voir.
Oui, on a besoin de ces images qui viennent comme ça nous régénérer d'une certaine façon. Hein. C'est ce que dit le texte. Se regarder tous les matins dans la glace, ça fait partie de nos rituels. Et qu'est-ce qu'on voit dans la glace? On voit une image, on voit une image de soi, on s'approche, on se détache. Et à certains moments, on crée ses propres images. Et c'est ce que je fais, puisqu'on n'écrit pas tout le temps le village Matouret. Et quand on n'écrit pas le village Matouret, eh bien, on peut peindre.
Et vous faites des carnets aussi, vous écrivez, vous dessinez dans des carnets rouges, je crois. Oui, plus ou moins.
Oui, vous en avez apporté devant vous, Paul, des carnets rouges. C'est un exercice comme un journal, c'est très intime, un carnet. Et ça permet de dessiner. Non pas des notes d'humeur, non pas des réflexions du jour, mais tout simplement l'apparition de personnes qui sont auprès de vous, qui vous accompagnent. Et dans ce carnet, la particularité de ces petits personnages qui sont là avec moi.
Vous m'en ouvrez un, là, tout en parlant, comme ça, on pourra l'évoquer.
On a des personnes qui parlent dans le silence, hein, puisque ce sont des dessins. Mais vous voyez, dans ces carnets, il y a des milliers d'images maintenant, depuis le temps. On a toujours, ou souvent, pas toujours, mais souvent, quelque chose qui est écrit, qui est soit une question, soit une petite phrase que dit peut-être le personnage, qui pour moi, en tout cas, puisqu'il y a souvent des dates, trace un moment de vie.
Là, il y a par exemple un personnage un peu fantomatique, comme une tache, et à la fois un visage plutôt animal, avec des cheveux qui seraient peut-être aussi des ronces, on ne sait pas. Il y a écrit pourquoi, il y a à droite une espèce de figure qui pourrait être une pipe, mais aussi qui terminait comme une carotte ou comme une racine de d'essence qui va sous terre, enfin qui, voilà, il y a un visage géométrique, un corps orange et un texte que je n'arrive pas à lire d'ailleurs, mais c'est peut-être écrit à l'envers, pourquoi il ne parle pas, voilà. On aurait dit qu'il avait changé. Et là, c'est un espèce de petit robot qui est aussi, qui a un corps de baleine, de toute petite baleine, avec un... dans une mer qui serait projetée comme si elle était la baleine et le petit tête de robot, donc c'est un satellite, la façon dont il verrait la Terre, éventuellement. Voilà, c'est des choses comme ça. Là, on voit des personnages, une girafe rouge, mais on ne voit pas la tête ni les pieds. Et puis des personnages un peu E.T. à droite et à gauche. Et as-tu vu les fées ? Voilà, c'est très coloré, c'était beau. Perfect days, les jours parfaits. Là, il y a une espèce de... presque un crâne plutôt chevalin ou d'un animal dont le visage est en longueur, enfin la tête en longueur, et en dessous un petit homme rouge, toujours un peu informe, un peu sinon préhistorique du moins, comme des martiens, ou comme ce qu'on peut imaginer. Donc il n'y a pas d'attachement très fort à l'habit.
Il y a un attachement à l'existence, d'une certaine manière, puisque la beauté des choses, la beauté du dessin ou la beauté de l'écriture, d'une certaine manière, c'est l'apparition, c'est l'existence. Donc, en fait, on voit des êtres qui ont des existences un peu minces.
Oui.
Qui sont de formes variées, peut-être qu'ils connaissent pas nécessairement leur forme, mais peu importe. Mais ça les incite en général à se poser des questions, hein, des questions simples, comme vous les avez citées. Pourquoi, c'est vrai.
Mais alors, des carnets, vous devez en avoir un paquet, des carnets comme ça.
Oui, j'ai en fait une sorte de somme de carnets. Alors, ça fait peut-être une petite trentaine de carnets, hein, désormais. C'est une activité que j'ai depuis... un petit nombre d'années, hein. Oui. ça ne me poursuit pas comme ça depuis si longtemps que ça, mais il y a ces pages et ces pages et ces pages, il y a ces images et ces images et ces images, et d'une certaine manière ça peuple un monde là aussi.
Moi j'avais un ancien professeur de philosophie qui s'appelait Alexis Filonenko qui disait voilà, pour devenir célèbre, c'est très simple, il suffit de garder tout ce qu'on fait. Je plaisante, évidemment, c'était une blague. Mais vous faites aussi des grandes choses, enfin des grands...
Alors je joue beaucoup avec les dimensions des choses, donc là vous avez des petits personnages, et on a parfois, ben, quand on accumule beaucoup de petits personnages, ça peut faire des grandes choses, comme vous dites, et donc je grave aussi... et là, je grave des petits personnages, et notamment j'ai une fresque d'une quarantaine de personnages qui se posent tous la même question, qui est « Tu as peur ?». Donc c'est une fresque en noir et blanc, oui. D'une quarantaine d'images qui se répètent comme ça, de petites créatures qui s'interrogent ou qui nous interrogent pour savoir si tu as peur. Et donc ça forme un ensemble plus vaste. Et puis,
c'est sur la place du village, ça ?
C'est partout dans le monde, d'une certaine manière, oui. Qu'on peut se poser ces questions. Et puis, parfois, je fais prendre des dimensions encore plus importantes à des choses qui vous paraîtraient peut-être, mais je ne crois pas, anecdotiques, notamment en photographie, où j'ai des photographies, par exemple, d'un savon. Donc, c'est un objet qui est vraiment insignifiant, un savon. Et selon, finalement, la manière dont vous regardez et photographiez ce savon, ça peut lui faire prendre des proportions littéralement cosmiques. Et donc là, on voit qu'en jouant sur les échelles, sur les dimensions des choses, sur le rapport entre les choses, les importances peuvent être complètement invraisemblables, en tout cas pour le commun des mortels.
Et à la fois, ce qui pose question, je reviens bien volontiers au livre, puisque c'était le début de notre entretien, et c'était autour de ce livre, et puis ce qui nous manque beaucoup quant à vos créations picturales, c'est de les voir. Et donc, moi j'ai eu le sentiment que, à propos de ma tourette, mais aussi à propos du livre en général, que à un moment j'ai pensé, je trouvais qu'il n'y a pas beaucoup de corps. Et à la fois, c'est exactement la réponse, elle est un peu donnée par vous-même, c'est-à-dire, dès qu'on s'intéresse à quelque chose et qu'on y pénètre, on voit la multiplicité des choses. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas explicitement de corps, même si on parle de choses physiques, que le livre est incorporel, que cet ouvrage, Le village Matouré, est incorporel. Au contraire, il est finalement assez physique, alors que de but en blanc, avec cette distance ou cette espèce de réserve du regard, quoi, le narrateur est là, il parle de, et il, en parlant, ou plutôt en écrivant, il se rend compte de la complexité du sujet qu'il a commencé d'apercevoir. Et en plus arrive Matouré, un espèce de concurrent qui l'a sollicité, qui l'énerve mais qui l'admire aussi, qui est encore plus incorporel que lui d'une certaine façon, mais qui l'est tout autant corporel quand même. Donc on est tout le temps dans cet aller-retour qui est à la fois fascinant, un petit peu énervant, en tant que lecteur, hein, j'entends, un peu énervant, on se dit, mais attends, où est-ce qu'il m'emmène, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais comme c'est de la poésie, malgré tout, ou plutôt parce que c'est de la poésie, et que la lecture de la poésie se fait par morceaux, c'est-à-dire on n'est pas pris dans une narration qu'on doit conduire jusqu'au bout, à la limite on s'en fout, on peut s'arrêter et reprendre. Et moi j'ai fait ce que j'ai fait, je me suis arrêté, j'ai repris, j'ai bougonné, j'ai repris, j'ai été séduit, j'ai été un peu énervé, et j'ai bien vu qu'il s'agissait de fragments tout autant, et de fragments qu'il fallait continuer, comme la vie d'ailleurs, qui est fragmentée aussi. Donc voilà, je voulais donner mon sentiment, et tout au bout du compte, je me suis trouvé que c'était un livre corporel, un livre qui me parlait, un livre qui parlait de choses qui me concernaient, moi, individu soi-disant unique. Voilà. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est une espèce de relation, et c'est intéressant, à mes yeux en tout cas, c'est un livre qui ne se lit pas comme un roman, pas du tout. Voilà. Il faut le lire par morceaux, y revenir.
Oui, merci beaucoup. Alors effectivement, c'est pas un roman. Hein.
Non, pas du tout.
On est bien d'accord. Non pas qu'il n'y ait pas d'histoire, mais il y en a...
C'est pas non plus un livre de sonnet, voilà.
C'est pas non plus un livre de sonnet, puisqu'en fait, il est un peu plus consistant qu'un simple sonnet. Il y a des morceaux. Mais justement, comme dans un village, il y a des morceaux, il y a des objets, il y a des choses. Et c'est ça qui fait le corps, d'une certaine façon.
Un tout petit texte, et puis après, on va écouter un morceau de musique.
Aux enterrements, tout le village. Les derniers moments sont rapides. Dimension nécessaire. Il s'en fallait de 20 cm. Celui-là avait creusé une tombe trop petite pour lui. Rien n'arrive par soi-même. On dut attendre une demi-heure pour que la tombe fût agrandie. Les parois de la fosse auraient pu s'ébouler à tout moment. Nombreuses inscriptions sur les pierres, peu de choses, rubans dont on ne sait plus s'il était rose ou vert, cercueil noirci, il y a des morts dedans. Personne respectable, dévoué, assidu, il était à terre, le pauvre Pépé.
Écoutez Aligre FM 93.1.
Alors là, nous étions en train d'écouter un groupe russe qui s'appelle Kino. Avant, nous avons écouté un Iranien qui s'appelle Niva Esh, je crois. Et tout avant encore, Bertrand Belin, qui est un chanteur français. C'est des musiques que vous avez choisies. Et je vous en remercie. Elles sont belles. Et la dernière est pleine d'énergie.
Elle est pleine d'énergie. Elle nous revient là aussi un peu du fond des âges, hein, parce que ça nous parle d'une époque qui était l'époque de la perestroïka. Donc voilà, une époque très ancienne
très
aujourd'hui, quand on y pense, avec justement des fenêtres de vie qui apparaissent comme ça dans un pays, avec effectivement des énergies formidables. C'est d'ailleurs la même chose que ce morceau iranien qui date... d'avant la révolution iranienne et à un moment où le rock iranien, ça va être psychédélique.
Et beaucoup de villages ont coulé sous les ponts depuis.
Absolument, le temps passe. J'ai voulu tout et pour tout le monde. Chansons consolantes, broderies brodées, bouquets de mimosa, coussins blancs, et voilà le doux trésor. Moule à gâteau, empruntez le tournevis. Le bébé bricole avec ses jambes. Vie courte, vie brève, fraisier grimpant, très peu de pensées. Deux fous jetaient leur mobilier sur la tête des passants. Embrassade discrète, feuilles mortes, chaussures qui glissent sur les feuilles mortes. Nouvelles branches tombées, pommes particulièrement difficiles à croquer, pommes à jeter au vert.
Pieds, nombreux pieds. Courant dans un champ, dans un chemin, en dévers, quelqu'un aurait pu tomber. Éclair, des alertes et du danger, guerre d'une demi-heure, rumeur, radio trop forte dans le village. Chaque année, des accidents surviennent. On dit ça en riant. Tout est normal.
Peintre fou du village, mais qui peint. Écrivain fou du village, mais qui écrit. Chacun choisit sa folie. Définition du village. Attention de ne pas assommer les gens avec sa conversation. Attention de ne pas se mêler à la conversation. Attention de ne pas dire du mal avec sa langue. Lui ne sait que le français. Devenir frère. Échanger son sang. Personne d'autre ne fit jamais semblable proposition. Attendre le quart à l'abri, s'il y en a un.
Moi, je voudrais qu'on parle un peu du nom de Matouret, du nom de Vincent S. Sadek, si c'est possible. Parce que vous êtes présent et absent. Non, ce qui est le rôle, c'est le statut assez fréquent des écrivains. Mais néanmoins, là vous êtes, il y a une immense présence dans votre texte. Mais Vincent S. Sadek, l'auteur, ou vous, derrière l'auteur, comment ça fonctionne le nom pour vous ?
Alors le nom pour moi, c'est quelque chose qui se crée comme beaucoup de choses. En fait, on se rend compte que y a le nom d'état civil qu'on a, que d'aucuns voudraient considérer comme notre nom. Hein. On ne peut pas en changer comme ça, c'est pas si facile. Et puis il y a les noms, il y a les noms qu'on se donne. Et il y a les noms aussi qui marquent des époques. Hein. Je ne sais pas si vous avez en tête ces japonais, ces artistes japonais qui, à certains stades de leur vie, changeaient de nom parce qu'ils changeaient d'état. Donc un nom, c'est un état. Et donc le nom de Vincent S. Sadek, c'est un état qui dit quelque chose. C'est à la fois un prénom et un nom. Et ça désigne finalement l'auteur du livre tel qu'il est aujourd'hui, d'une certaine manière. Donc c'est beaucoup plus qu'un patronyme.
Silhouette sortant de la cour, silhouette regardant passer les voitures, silhouette courant sur la route, silhouette fixant l'objectif, sourire apparaissant sur la photo, image, quelqu'un qui lave un plat ne peut en même temps regarder l'objectif de l'appareil, il doit choisir son camp. Curiosité, violence, on le trouvait éloquent. Il n'aurait pas fallu qu'on fasse trois pas de plus. Matouret aurait rougi de toutes ses dents. On ne pouvait pas le toucher. On le frôlait parfois. Alors, ça a l'air paradoxal, mais moi, quand j'ai lu ce passage-là, j'ai pensé à l'histoire de l'identité et du nom. Voilà, quand il y a des identités qu'on ne peut pas toucher, on les frôle. Et même quelquefois l'œuvre, ou le texte, ou le poème, ou la phrase, sont faites pour le frôler. Une autre identité même que celle de l'auteur avéré. Voilà, c'est juste une rêverie, je ne sais pas.
Oui, mais vous avez raison, je pense que c'est un beau sentiment d'inspirer un frôlement, c'est-à-dire de ne pas être dans un acte de prise du lecteur ou de pénétration de la tête du lecteur, mais d'être dans quelque chose de finalement un peu plus doux, qui laisse justement ce moment qui est très particulier, qui est un moment de frôlement, qui est un sentiment sur lequel on n'écrit pas beaucoup, mais qui est aussi un beau phénomène, un beau sentiment.
En tout cas, le village Matoré est un frôlement, en tout cas. On se dirige vers la fin de notre émission. Peut-être peut-on aussi se demander de comment vous partagez votre temps entre l'écriture et la peinture, la gravure, la photo, les carnets. Vous faites ça tous les jours, systématiquement, comment ça se passe ?
Il y a des temps qui sont un peu différents. Il y a un temps que vous connaissez sans doute, qui est le temps de la peur. Le temps de la peur de se mettre à écrire, hein, par exemple. Et ce temps de la peur, il est assez facilement effacé par le carnet. Et donc, le moment du matin tôt, c'est plutôt le moment du carnet. Et une fois que la peur est effacée, il y a l'écriture qui peut venir. Et là aussi, vous connaissez évidemment cela, cette écriture, elle vient, on y passe un temps agréable, important, et puis il y a une énergie qui tombe à un moment donné. Et donc, quand cette énergie a disparu, on peut aller peindre, parce que peindre, tout d'un coup, c'est quelque chose qui est extrêmement concret, manuel. C'est de la matière, c'est la main, c'est beaucoup moins évanescent que l'écriture en termes de matière. Et donc, on revient à l'énergie par cette confrontation à la matière. Et donc, en fait, on est dans des passages, finalement, d'un matériau à un autre, selon les moments de la journée ou selon les humeurs du jour.
Tout en étant la même personne.
Tout en étant sans doute, mais sait-on jamais la même personne. Jamais,
oui. Oui, mais c'est glorieux, comment dirais-je, c'est heureux de pouvoir crier de toutes ces façons-là. À crier, puisque peur il y a, c'est exprimer.
C'est heureux de se dire que sort d'une personne humaine, très très modeste, des choses qui peuvent apparaître comme ça, innombrables et infinies, de formes extrêmement variées. Il y a une jubilation à ça, oui, évidemment.
En tout cas, merci beaucoup Vincent et Sadek d'être venus nous lire et nous parler du visage, le village, pas du visage, le village Matoré, publié aux éditions Lanskin. À bientôt.
Avec plaisir.
Merci.
Voilà.
C'était Chute libre, entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.